Si vous aimez le mystère, le paranormal, et que vous souhaitez en savoir plus sur les recherches en cours, eh bien restez avec nous sur Fréquence Évasion et découvrons ensemble en compagnie de scientifiques et de témoins les phénomènes que l'on dit surnaturels. Patience, c'est dans une poignée de minutes sur Fréquence Évasion.
Fréquence Évasion.
Fréquence Évasion.
Dans quelques instants, l'invité de la Clé du Mystère aujourd'hui, Patrick Lebert. Il est physicien devenu métaphysicien. Il a écrit un livre, Passeur d'âme. Nous allons le découvrir dans quelques instants. À tout de suite.
Vous écoutez Fréquence Évasion, Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon, Provence, Côte d'Azur.
Chaque jour sur Fréquence Évasion Grand Sud, infos, loisirs, culture, environnement et détente. Fréquence Évasion, www.fréquenceévasion.com. Fréquence Évasion vous donne la possibilité de dialoguer sur l'un des trois forums. Paranormal, région et musique. Venez dialoguer sur les forums Fréquence Évasion. Cliquez sur forum. Bon surf sur le site de Fréquence Évasion, www.fréquenceévasion.com.
Radio Fréquence Évasion, Principauté de Monaco, Grand Sud.
Patrick Lebert, bonjour et merci de participer à la Clé du Mystère sur Fréquence Évasion. Vous êtes un physicien devenu métaphysicien, vous avez écrit Passeur d'âme aux éditions Exergue. Qu'est-ce qui vous a incité à écrire cet ouvrage et qu'est-ce qu'un passeur d'âme ?
Une démarche continuelle en fait qui m'a amené à écrire cet ouvrage puisque c'est le quatrième ouvrage d'une série en fait qui a débuté par un ouvrage scientifique sur l'eau, puis un ouvrage ensuite sur les personnes qui étaient en coma longue durée où j'ai eu à les aider à revenir à la conscience. Un troisième ouvrage sur un projet de civilisation qui s'appelle Objectif Bien-être. Et le quatrième ouvrage, Passeur d'âme, en l'occurrence, est là, est un peu une synthèse avec en même temps toute la manière d'accompagner, hein, puisque Passeur d'âme, c'est ça, c'est un accompagnant en transition de vie, d'accompagner les personnes, les amis qui viennent me voir.
Alors comment ça se passe justement cet accompagnement ?
L'accompagnement se passe simplement en deux temps bien particuliers. Comme je l'ai indiqué tout à l'heure, la première chose que j'ai eu à valider dans mes études de physicien, mes études scientifiques, c'est les mécanismes de la douleur et la manière avec laquelle on peut sortir des processus de la douleur. Mmh. Déjà décrire ça dans un premier temps pour trouver les moyens d'en sortir. Et je me suis aperçu qu'en manifestant une respiration particulière, un ancrage particulier hein, dans mon propre corps, lorsque je massais un ami, eh bien les charges en question qui étaient à l'origine de ces douleurs traversaient mon corps et allaient en terre. Mmh. Et donc c'est déjà un des premiers temps du passeur d'âme, c'est un temps de massage pour enlever les carapaces, qu'on pourrait appeler les fardeaux, les charges que l'on prend dans la société, que l'on prend des autres. Mmh. Ça, c'est le premier temps. Et le deuxième temps du passeur d'âme, c'est un temps ensuite de voyage initiatique, hein, d'expansion de la conscience pour aller rejoindre l'autre partie de soi-même, tout simplement l'autre partie de soi-même. Hein. On n'a qu'un seul maître en chacun, et l'expérience me le montre depuis 14 ans, c'est cette deuxième nature de l'œuvre qu'il s'agit d'accomplir après, une fois que les fardeaux ont été enlevés d'abord. C'est essentiel.
Alors précisément, qu'est-ce que vous appelez l'autre partie de soi-même ?
L'autre partie de soi-même, simplement, c'est que dans la vie, les auditeurs doivent bien sentir la justesse de ce que je vais évoquer, on prend des charges des autres. Et c'est par un formatage, hein, formatage parental, sociétal, quel qu'il soit, ou professionnel, ou religieux, et bien par ce formatage-là, ça vient finalement créer comme une carapace, une empreinte sur l'individu qui n'est plus lui-même. Mmh. Il est lui-même plus quelque chose qui lui a été rajouté.
D'accord.
Et la première des étapes et des démarches, c'est de, pour pouvoir se retrouver en lien avec soi-même, c'est d'enlever ce qui lui est inutile, ce qui est de trop.
Mmh. Alors,
qui le charge.
Je suppose que les individus aujourd'hui doivent avoir une charge assez importante.
Exact, Alain, oui. Et on est dans une phase extrême dans notre société à l'heure actuelle. Et cette phase fait que les formatages sont tellement nombreux dans une société qui est une société du contrôle, hein, que nos amis aujourd'hui ont perdu le sens de la liberté et se retrouvent dans une forme, je pourrais dire, d'esclavagisme. Mmh,
tout à fait. Alors, quel a été votre cheminement pour découvrir la réalité des choses, passer de physicien à métaphysicien, par exemple ?
Le voyage qui a été le mien, ça a été justement celui de me rendre compte que j'étais moi-même formaté. Mmh. Ouais. J'ai dû passer par chacune de ces étapes, si vous voulez. Mmh. Alors, la première de ces étapes, j'y suis allé vraiment tout doucement, pas à pas, puisque moi, mon formatage a été très très fort. Hein. Je suis quand même un ancien physicien du nucléaire, hein, du nucléaire militaire en plus. Mmh. La première étape, moi j'y suis allé tout doucement, je suis passé par la physique. La physique pour expliquer les lois. Puis après, par la métaphysique pour expliquer les causes. Mmh. De ces lois. Puis ensuite, par une démarche philosophique, pour plutôt émettre de la sagesse. Et ensuite, par une démarche spirituelle, pour ouvrir à l'amour. Mm-hmm. Mais ouvrir à l'amour, ça n'a pas été l'étape initiale. C'est un cheminement. Mm-hmm. Un cheminement qui a été très très long, chez moi en tout cas. Et je conçois que chez nos frères et nos sœurs qui nous écoutent, aujourd'hui, ça soit aussi quelque chose qui prenne un petit peu de temps.
Oui, alors surtout aujourd'hui, hein, comme vous le disiez il y a quelques instants, on est dans une...
Voilà, ceci étant, ben, cette démarche, cette étape, qui moi m'a pris quand même plusieurs années, oui. C'est une démarche qui m'a demandé 7 ans de travail, j'allais dire de néophyte, hein, un petit peu, pour me retrouver dans ma quête individuelle, et puis 4 années derrière de phase d'apprentissage personnel.
Tout simplement.
C'est seulement après que j'ai pu aller vers un processus qui m'a permis de me tourner vers mes amis pour proposer cette nouvelle œuvre spirituelle qui est celle du passeur d'âme.
Comment ont-ils réagi ?
Alors, ils ont réagi, en fait, je dirais, dans la mesure où comme je ne fais aucune action de prosélytisme, en fait, ce sont certains amis qui se sont retrouvés à venir naturellement me demander de l'aide, voilà, dans mon environnement proche, hein, que ce soit des amis, des membres de la famille ou autres. Ça s'est fait comme ça. Donc, il n'y a pas eu de heurts particuliers puisque je n'impose rien, hein, finalement, à qui que ce soit.
Alors, j'ai vu une conférence, vous parlez des champs informationnels. Pourriez-vous nous expliquer justement le plus simplement possible, car bien sûr, ça fait l'objet de nombreuses conférences, de longues conférences, la théorie du champ d'Émile Pinel, à savoir les champs H1, H2, H3 et le champ unitaire ultime.
Alors, cette physique d'Émile Pinel et de sa collaboratrice Jacqueline Bousquet, qui nous a quittés l'année dernière, rejoint celle aussi de Rupert Sheldrake, je tiens à le préciser, et rejoint les travaux de physique que j'ai eu à faire en physique de charge d'espace au CEA. C'est une physique dans laquelle, pour reprendre le vocabulaire par exemple d'Émile Pinel, on peut constater qu'il y a essentiellement 3 types de champs principaux qui sont manifestés, hein, de champs électromagnétiques qui sont manifestés chez un être humain. Alors, quand je dis manifester chez un être humain, je dois rappeler qu'un être humain, dans mon premier ouvrage sur l'eau, j'ai validé que c'était comme un poste radio, émetteur et récepteur. Donc, à partir du moment où on a la conscience que notre corps est comme un poste radio, on a la conscience qu'on peut capter des ondes et qu'on peut donc capter ces champs informationnels. Voilà, déjà première étape. Après, quel type de champ ? Il y a un champ très particulier qu'Émile Pinel a nommé le champ H2, qui est le champ du donneur d'ordre. Et ça, c'est quelque chose de fondamental. Parce que nos amis qui voyagent pour aller retrouver le sens de ce qui est leur propre créateur, hein, finalement, vont dérouler ce champ du donneur d'ordre, vont finalement révéler ce champ du donneur d'ordre, le champ H2 d'Émile Pinel. C'est ce que Rupert Sheldrake a appelé aussi le champ de causalité formative.
Alors, comme disait Jacqueline Bousquet, il y a un champ, alors je ne sais plus si c'est le champ H3, qui serait matériel d'un côté, enfin semi-matériel d'un côté, immatériel de l'autre, irréversible, ce qui expliquerait la réincarnation.
Alors, comme j'ai, je vais décrire effectivement les autres champs pour que nos auditeurs puissent comprendre. On a déjà celui du donneur d'ordre, qui est ce champ lié à notre créateur et à notre âme. Ça veut dire que, comme dans un poste radio, quand vous avez quelqu'un qui parle dans le poste, enfin à la radio, il n'est pas dans le poste radio.
Hein.
Donc, ça veut dire que ce champ du donneur d'ordre, c'est le premier champ fondamental, il a une influence. C'est que cette influence, quand il va venir dans la matière de notre corps, il va générer un champ exécutant qui donne la forme à la matière. Mmh. Et c'est ce champ qui est appelé le champ morphogénétique chez Rupert Sheldrake, qui est l'effet, qui est formé par ce donneur d'ordre. Mmh. Donc tout démarre par ce donneur d'ordre. Mmh. Et à partir de ce donneur d'ordre, ce qui se passe, c'est que la vie ensuite nous fait dérouler simplement une somme d'expériences. Et ces expériences contiennent à la fois ce qui est utile pour notre vie et en même temps ce que les formatages de la société vont nous rajouter. C'est-à-dire qu'il y a un troisième champ, le champ H3, qui est le champ induit ou dérivé de ces deux premiers champs, qui va se générer. Et toute la problématique des êtres humains, finalement, c'est de faire en sorte que ce champ induit ou dérivé ne soit pas induit ou dérivé par les autres, mais qu'il soit juste le fruit de ce qui vient du donneur d'ordre. Et c'est là qu'on peut retrouver que toute cette expérience qui va s'accumuler dans la vie d'un être, lorsque cet être va décéder, ce champ-là, lui, va remonter au donneur d'ordre, comme une expérience de plus. Peut-être ce que vous pouvez appeler, vous, ici, vie antérieure.
Voilà. Alors, ces trois champs sont séparés, mais en même temps imbriqués.
Ils sont complètement imbriqués, et la caractéristique, si vous voulez, c'est qu'à partir du moment où vous avez les ordres de grandeur de cette physique, et c'est très important d'entendre les ordres de grandeur pour que nos auditeurs comprennent sur ces champs H1, H2 et H3, les ordres de grandeur qui sont là, c'est la physique de charge d'espace qui a été la mienne au CEA qui permet de les déterminer. Mmh. Et le fait de comprendre ces ordres de grandeur nous permet de comprendre pourquoi notre humanité a tant de mal à sortir du bourbier dans lequel elle est en ce moment.
Ah oui.
Alors ça, c'est très important. Je vous donne des ordres de grandeur. Quand vous avez une loi de la vie à comprendre, il se passe deux cas de figure. Soit la connaissance vous a été donnée par l'extérieur, et je dirais que là, l'information en question, elle va rentrer à l'intérieur du corps qui est un isolant, et elle va sortir, puis se mettre à l'extérieur du corps. C'est un mécanisme de biophoton, mécanisme de résonance avec les photons, que nos amis clairvoyants arrivent tout à fait à lire chez les êtres humains, c'est-à-dire qu'en regardant un être humain de l'extérieur, ils peuvent arriver à scanner et voir, par exemple, quels sont les événements qui ont été vécus par une personne, exactement comme s'ils lisaient la bande magnétoscope ou vidéo d'un film. Par contre, quand un événement de la vie, lui, n'est pas intégré, parce que la famille ne l'a pas donné, la culture ne l'a pas donné, le milieu professionnel ne l'a pas donné, eh bien, il faut savoir que cette information-là va se piéger à l'intérieur du matériau isolant qui est notre corps, à un endroit donné. C'est-à-dire la quantité d'énergie, c'est une quantité d'énergie, on va appeler ça 1. Alors, peu importe que ça soit en électron-volt, en joule. Qu'est-il, c'est que la charge du traumatisme qui se met par-dessus, du fait de la non-compréhension de cette loi, il faut savoir qu'elle est 1000 fois supérieure, au moins, à ce qui a été mis à l'intérieur. Donc c'est une charge électronique, celle-là. La première était photonique, la deuxième est électronique, elle est 1000 fois supérieure. Ce qui fait que tout un chacun peut se rendre compte que, par exemple, on prendra l'exemple d'un enfant qui va à l'eau. S'il n'a pas été guidé pour aller à l'eau et qu'il rencontre un traumatisme lorsqu'il va dans l'eau, la fois d'après, quand il va revenir dans l'eau, il aura besoin d'être accompagné parce qu'il aura peur. Il aura peur pourquoi ? Parce qu'il aura eu une douleur issue de l'expérience précédente. Et cette douleur, ce traumatisme issu de l'expérience précédente, c'est cette énergie, ces 1000 qui se sont piégées à l'intérieur de lui et qui permet de comprendre pourquoi chez les êtres humains la conscience va petit à petit se refermer, le champ de conscience va se refermer petit à petit, comme si on avait des œillères. C'est ça qui nous permet de comprendre pourquoi Freud nous disait que l'inconscient domine le conscient. parce que ces 1000 dominent le 1, parce que c'est une énergie qui est beaucoup plus forte et qui, heureusement, est là chez l'être humain, parce que sinon nous n'aurions jamais pu survivre aux guerres, tout simplement. Hein, on peut se rendre compte qu'un être humain qui vit des atrocités terribles lors des guerres, il a besoin de survivre après, donc il a besoin que son champ de conscience se referme, donc qu'il ne voit plus que 1 au lieu de 1000. Évidemment, tout le travail après, ça sera de l'aider à aller regarder les 1000 en question en étant accompagné, de retourner à l'eau en étant accompagné par un maître nageur. Mmh. Et c'est ça le rôle du passeur d'âme, finalement. Donc ça, c'est la toute première étape qui nous décrit que ce champ qui est là est donc déjà colossal et qu'on ne peut pas, y aller tout seul pour faire cette étape de libération. Mmh. Mais, la physique nous démontre que quand ça se piège localement à un endroit du corps, il vient ensuite se créer, ça attire d'autres électrons, il vient se créer une zone tout autour qui piège à 1000 fois, tenez-vous bien, 1000 fois plus encore les charges tout autour. C'est ce que j'appelle moi des charges de victime dans des domaines similaires à ce qui n'a pas été compris avant, des charges de victime qui vont se mettre tout autour, et donc on est maintenant à 1 million. Mmh. On avait 1, 1000 et maintenant 1 million. Mmh. Et évidemment, quand on a maintenant mis sur cette chape de ce couvercle, finalement, où on avait bloqué une charge de 1000 à l'intérieur de notre corps, on met plein de gros cailloux, si vous voulez, sur le couvercle de cette casserole, eh bien, évidemment, personne va oser soulever le couvercle de peur de retrouver toutes ces peurs. Et c'est ça qui fait que dans notre société, beaucoup d'êtres humains n'ont pas la volonté, n'ont pas le courage, n'ont pas la possibilité d'aller faire leur introspection salutaire.
Qu'est-ce qu'il faudrait faire justement pour se sortir de ce problème ?
Le mécanisme ne se termine pas là. Mmh. Il y a encore une étape supplémentaire. L'étape supplémentaire, c'est qu'autour de toutes ces charges qui se sont piégées, il va y avoir encore une tension de tout le matériau à 1000 fois les 1 million. Mmh. Et c'est une tension mécanique. Et après, l'individu, il est complètement stressé. Hein, c'est une contrainte. Mmh. Il est stressé. On est maintenant à l'énergie de 1 milliard et non plus 1 million. D'où la nécessité d'être aidé.
Oui, et comment ?
Comment ? Donc la première des étapes, c'est justement de pouvoir, lors d'un massage, permettre que ces charges, ce courant, soient tout simplement mis en terre. Mmh. Et il est mis en terre par les pieds du passeur d'âme.
D'accord.
Et les amis en séance, moi, l'entendent, parce que ça fait du bruit dans mes pieds, et ils se trouvent déchargés de ces fardeaux et de ces charges qu'ils ont pris des autres, en tout cas. C'est la première étape, c'est d'enlever un petit peu tous les cailloux qui sont sur le couvercle de cette casserole pour permettre à chacun d'aller trouver ensuite, dans un deuxième temps, la compréhension qui réside au fond de cette casserole ou de ce puits de piégeage.
On marque une pause dans la clé du mystère, on revient dans quelques instants.
Enfin, il existe une radio dynamique et proche de ses auditeurs. C'est Fréquence Évasion, la radio du Grand Sud sur le web. Écoutez la différence.
Sur Fréquence Évasion, les stars d'hier, d'aujourd'hui et de demain se racontent en toute liberté. Pour en savoir plus, cliquez sur Programme. Bon surf sur le site de Fréquence Évasion, www.fréquenceévasion.com. Votre soirée télé sur les 6 chaînes et la TNT. Qu'allez-vous regarder ce soir ? Pour en savoir plus, cliquez sur Programme TV. Fréquence Évasion vous propose le programme de votre soirée grâce à programme-télé.org. Bonne soirée à la télé, ou sur Fréquence Évasion.
De Menton à Toulouse, Radio Fréquence Évasion, le soleil du Grand Sud.
Nous sommes de retour sur Fréquence Évasion, nous sommes toujours en compagnie de Patrick Lebert, physicien, qui a écrit un ouvrage Passeur d'âme aux éditions Exergue. Alors il y a une question assez récurrente qui nous sont posées par nos auditeurs, vraiment très régulièrement. Comment se fait-il qu'on ne se souvienne plus, mais de rien, c'est le blackout total. Pas pour certains, mais pour la majorité, dès l'incarnation. C'est-à-dire dès qu'on arrive dans une autre vie, quand on est bébé, on se souvient plus de rien. Pour certains, ça semble être très gênant. C'est quoi la raison ?
Pour certains, ça peut sembler très gênant, mais je dirais que ça peut être un énorme avantage. Il s'agit de bien repositionner à quoi ça sert. Mmh. C'est-à-dire que quand quelqu'un a et par exemple eu une vie passée qui s'est terminée de manière traumatisante, et c'est quand même quelque chose de fréquent hein, si l'on regarde ce qui se passe dans notre monde depuis des millénaires, eh bien ça veut dire que si l'enfant naît très sensible, l'enfant est à la naissance, si l'enfant naît avec la sensibilité et le rappel mémoriel de ce traumatisme passé, il ne pourrait pas survivre. Il ne pourrait pas survivre. Donc il est cohérent, logique, normal que ces choses-là soient occultées.
Est-ce qu'au cours de la vie, on peut retrouver, en faisant un travail, justement, qui on était et d'où on vient ?
Bien sûr, c'est faisable. C'est pas forcément une étape obligatoire de passage pour les uns ou pour les autres. Je dirais que, d'une certaine façon, l'expérience m'a montré, en accompagnement des amis depuis 14 ans, que ça apparaît lorsqu'il y a besoin. Et ça apparaît tout seul, c'est pas une recherche, si vous voulez. C'est quelque chose qui permet de faire ressurgir des traumatismes du passé pour en comprendre les lois manquantes. Que ce traumatisme ait été vécu dans l'enfance, la vie fœtale, ou un aspect antérieur, mais pas spécialement un aspect antérieur.
Alors, s'il y a des passeurs d'âme, il y a une vie après la vie, évidemment, hein, c'est évident. Nous avons réalisé des émissions avec les docteurs Mario Bregard, Jean-Jacques Charbonnier, Jacqueline Bousquet, Jérôme Bourgine et l'Institut Monroe pour les sorties astrales. Que se passe-t-il quand nous disparaissons, quand nous quittons notre corps physique ?
Donc lorsque nous quittons ce corps physique, le champ induit ou dérivé, ce champ H3 qui a fait l'expérience de cette vie, il va remonter le fruit de ses expériences au champ du donneur d'ordre, au champ H2. Et donc, c'est-à-dire à l'âme, ici, à l'âme. Et donc, il y a quelque chose comme un tri qui se fait entre ce qui a été acquis et ce qui ne l'est pas. Ce qui ne l'est pas, c'est tout ce qui, finalement, a été piégé dans le corps de l'être humain, qui n'a pas été, donc, analysé du vivant de cet être humain, et qui, du coup, au final, va se retrouver dans un bilan de vie à être analysé, comme le disent très bien ces expérienceurs que vous citez, ces spécialistes des EMI ou cet Institut Monroe que je connais particulièrement. Donc c'est une étape de transition, une étape de transition qui se vit où toute la charge électronique, la charge émotionnelle, si vous voulez, va être convertie d'une certaine façon en information qui demandera après lors de ce bilan de vie peut-être à revenir pour poursuivre ce qui n'a pas été acquis, par exemple.
Alors, les expérienceurs de NDE nous disent qu'ils sont mille fois plus conscients que nous en ce moment. Comment se fait-il ? Parce qu'ils sont dans l'information, ils sont directement dans l'information, ils ne passent plus par le filtre du cerveau.
L'état de mort imminente est un des cas particuliers du champ d'expérience de la conscience dans lequel les expérienceurs se retrouvent et qui, par l'aspect de la connexion déjà cerveau droit, permet de retrouver une connexion au tout, une expérience souvent fulgurante, une expérience souvent courte, et parfois difficile à réintégrer au présent ensuite, ou une difficulté à retrouver ces états d'amour ou d'empathie qu'ils ont connus lors de ces expériences. Sachant qu'en expansion de conscience, l'idée c'est de pouvoir arriver à toucher ces états-là et bien d'autres, d'aller dans des plans de conscience encore plus élevés que ceux touchés par les NDE ou les EMI, et de manifester tout simplement cette énergie d'amour d'un enfant, comme un enfant le fait à la naissance, après tout, s'il n'est pas abîmé en vie fœtale et à la naissance.
D'accord. Alors, vous accompagnez les âmes de l'autre côté du voile. Je suppose que vous avez des contacts avec les personnes qui ont franchi ce voile. Qu'est-ce qu'ils rapportent comme information ? Qu'est-ce qu'ils vous disent ?
Ça reste vraiment de l'intime, si vous voulez. C'est pas pour moi d'un intérêt majeur de rentrer dans ce type de débat aujourd'hui, parce que ça serait relatif à ceux que je peux capter personnellement et qui ne peuvent représenter qu'une partie de la question que vous posez. Le passeur d'âme n'est pas seulement quelqu'un qui accompagne au moment du passage. Il est accompagnant en transition de vie à la naissance, durant la vie, pendant les phases de coma et effectivement lors du passage de la transition de vie finale. Mais c'est un des quatre temps du passeur d'âme, comme ça c'était fait déjà il y a 25 siècles du temps de l'école pythagoricienne. Remise à jour, si vous voulez, d'un vocable qui a existé depuis longtemps, qui certes a été déformé aujourd'hui parce que on parle souvent du mot passeur d'âme uniquement dans le sens du passage de vie à trépas, ce qui n'est pas le cas.
Je parlais d'une manière générale, parce qu'on nous pose souvent la question. C'est une question récurrente.
C'est vraiment pas le cas principal, puisque beaucoup d'amis, beaucoup d'êtres humains aujourd'hui sont plutôt en quête de trouver le sens de leur vie dans cette transition, dans cette mutation de société dans laquelle nous sommes, très clairement aujourd'hui.
Est-ce qu'il y aurait quelque chose à ajouter, Aube ? Certainement, énormément, on pourrait parler des heures de tout ça, mais disons l'essentiel, quelque chose qu'on aurait oublié d'évoquer dans cette émission.
Ce qu'on a évoqué ici dans la fonction du passeur d'âme, c'est ce cheminement qui amène à s'ouvrir à quelque chose de très simple, c'est l'expression de l'amour. Donc la compassion et l'amour, c'est ça qui est au centre de l'activité du passeur d'âme, comme je le raconte dans l'ouvrage, hein, Passeur d'âme, l'heure d'un choix, aux éditions Exergue, qui est sorti il y a peu de temps. Donc c'est vraiment ça qui est l'axe central, parce que notre société à l'heure actuelle a une partie des individus qui sont encore coincés dans des sphères de contrôle et de pouvoir, et une autre partie qui s'ouvre de plus en plus à un autre mode de vie, à une expression de l'amour dans la simplicité de l'enfant qui vient de naître. Il y a beaucoup à faire dans le domaine du passeur d'âme. C'est vraiment un champ spirituel, hein. C'est pas du tout un champ thérapeutique, c'est un champ spirituel. Il y a beaucoup à faire pour aider aussi bien les jeunes âmes à s'incarner, hein, c'est-à-dire le domaine de la naissance, pour retrouver l'origine même de la maïeutique, l'accouchement des âmes, dans des métiers comme les métiers de sages-femmes qui ont un petit peu perdu leur âme, hein, on doit le dire aujourd'hui, voit comment ce métier est en difficulté à l'heure actuelle en France, tout aussi bien que dans des métiers de l'accompagnement au passage ultime, à partir de ce qui s'est fait des travaux d'Elisabeth Kübler-Ross, je dois dire aussi des travaux de Michel de Muzan, qui déclarait que la sixième phase, après les cinq phases d'Elisabeth Kübler-Ross au moment d'un passage, la sixième et dernière phase, c'était le besoin d'un passeur, c'est-à-dire d'avoir quelqu'un qui aide à faire cette transition. Et c'est vraiment d'actualité d'évoquer ça à un moment où on nous parle beaucoup d'euthanasie ou pas, enfin de revenir sur ces thèmes, voyez-vous.
Oui, alors justement, on parle souvent de ces thèmes. On a des contacts avec les gens quand on essaye de leur expliquer certaines choses. Ils vont dire, mais qu'est-ce que tu racontes ? L'âme, ça n'existe pas. Vous voyez dans quelle dimension on peut être à ce moment-là. Qu'est-ce qu'on peut faire pour ces gens-là, quoi ? On est complètement plombé.
Il y a une difficulté que nous devons accepter, c'est que nous sommes dans la vie tous à des classes, dans des classes différentes de la vie. C'est pas qu'il y en a qui soient, je dirais, moins intelligents que d'autres ou moins adaptés que d'autres. Il est bon que nous puissions respecter dans des classes de la vie. Quand il y a, peut-être il y a 20 ans, on m'aurait dit, on m'aurait parlé de l'âme, j'aurais peut-être répondu comme vous venez de le faire à l'instant, au sujet de ces personnes qui vous aurait répondu, ça n'existe pas, voyez-vous. Mais c'est l'expérience, après, qui permet de toucher du doigt, de vivre ça. Ça demande à tout un chacun de se dire, est-ce que je suis prêt à faire ce genre de voyage initiatique, puisque tout ça, c'est uniquement initiatique, et je dois le répéter fortement aujourd'hui, ésotérique. Hein. Ésotérique, ça veut dire qu'il vient des mondes intérieurs, or la physique là-dessus est incontournable. C'est dans les mondes intérieurs que se situent, que sont piégées toutes ces charges. Et on n'a pas d'autre choix que d'aller chercher ce qui est dedans pour le mettre dehors. Hein.
Bien sûr.
Ça, c'est pas contournable.
Alors, ces champs ont véritablement été prouvés par la science, par les mathématiques, comme disait Jacqueline Bousquet ?
C'est dans ce sens où, quand je vous dis que En parallèle, on peut mettre les travaux de Sheldrake, d'Émile Pinel ou ceux de la physique de charge d'espace sur lesquels j'ai œuvré. C'est en ce sens où j'ai pu observer que la physique nous donnait déjà des éléments, mais pas seulement, puisque je ne me suis pas contenté de rester le physicien, voyez-vous.
Oui, oui, oui.
Depuis 14 ans, j'accompagne. Et le deuxième ouvrage où j'ai accompagné des personnes en coma longue durée pour les aider à revenir à la conscience, ce deuxième ouvrage qui s'appelle « Le fil de la vie » aux éditions L'Harmattan, témoigne du processus, de comment on pourrait aider quelqu'un qui se trouve dans un coma à revenir à la conscience s'il a envie de revenir. Vous voyez, ça aussi c'est d'actualité aujourd'hui quand on voit certaines célébrités qui sont dans le coma.
Comment se fait-il aujourd'hui que la science en général n'avance pas plus vite et ne s'intéresse pas ou refuse pour certains ces recherches ?
C'est une bonne question. J'ai dû sortir de cet univers scientifique pour pouvoir aller vers l'univers du passeur d'âme. C'est à partir du moment où vous vivez à l'intérieur, vous pouvez vous rendre compte qu'il y a un niveau de fermeture au niveau scientifique qui est exactement comme on pourrait trouver parfois dans certains dogmes religieux, après tout, un niveau de fermeture qui fait que, contrairement à ce qu'on pourrait croire, le chercheur ne cherche plus, ne s'ouvre plus à du nouveau, parce qu'il est comme enfermé, comme je l'ai dit tout à l'heure, par des valeurs qui sont 1000 fois et 1 million de fois supérieures à ce qu'il peut lui-même avoir envie de bouger. Moi, j'ai eu à le faire, bon, certes, par des difficultés dans ma vie, et bien les êtres humains sont de la même façon, poussés parfois dans leur retranchement par le mur de la nécessité, qui peut être une maladie, qui peut être un événement dans le couple, qui peut être un événement professionnel, vous voyez. Donc les êtres se mettent en chemin à partir du moment où ils rencontrent un moment de crise.
Ouais.
Ce mot de crise qui est le même mot qu'opportunité en chinois.
Patrick Lebert, est-ce que vous avez des projets ?
Le projet que j'ai, si vous voulez, c'est simplement de pouvoir arriver à faire passer ce message relativement nouveau et suffisamment clair où il y a une cohérence entre la science et la conscience, si vous voulez. C'est pour ça que mon leitmotiv, j'en ai qu'un, si science sans conscience n'est que ruine de l'âme, qui est une paraphrase là d'une phrase de Rabelais, conscience sans science n'est qu'illusion de spiritualité. Ça veut dire que je suis en mesure d'avoir réalisé un pont important entre la science et la spiritualité. Nous ne sommes pas si nombreux que ça à avoir ces deux casquettes, si je puis dire. Et c'est à ce titre que les projets qui s'ouvrent devant moi sont plutôt de cet ordre, c'est-à-dire d'amener ma pierre à un édifice qui est un édifice d'ouverture de la conscience pour les êtres humains dans les années qui viennent.
Alors, vous avez un site internet ?
Alors, nous avons une association qui s'appelle le Jardin du Créateur, donc www.lejardinducreateur, puisqu'il n'y a pas d'accent, .fr, où tout simplement, enfin, on déroule certaines activités artistiques, sans avoir besoin de rentrer dans des considérations ésotériques, dont j'ai parlé tout au long de cette émission, où on peut me contacter, oui.
Pour terminer, est-ce que vous auriez un message adressé aux auditeurs ?
Nous sommes à un beau tournant, une belle ouverture de l'humanité. Il y a une possibilité pour tout un chacun d'aller vers l'expression simple de l'amour et d'être guidé comme ça. C'est une joie, c'est une liberté, c'est ça le message simple. Et je souhaite que chacun des auditeurs ou auditrices qui écoutent aujourd'hui ce message se dise « bien, ça c'est possible ». Vous voyez, quelqu'un qui, comme moi, est parti d'un univers totalement fermé, vraiment le niveau de fermeture qui était le mien au départ était vraiment colossal, voilà, a pu faire un bout de ce chemin-là. Donc ça veut dire que si j'ai pu faire ce bout de ce chemin-là, d'autres vont pouvoir le faire.
Tout à fait.
Et d'autres le font. Depuis 14 ans, j'en ai le témoignage.
Merci Patrick Lebert d'avoir participé à La Clé du Mystère sur Fréquence Évasion et à très bientôt sur cette antenne. Au revoir.
À bientôt Alain.
Fréquence Évasion.